Le journal d'Haïti et des Amériques, c'est avec Anne Verdaguet. Bonjour Anne.
Bonjour Edmond, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal aujourd'hui, les primaires dans le New Hampshire et la victoire de Bernie Sanders qui prend une longueur d'avance dans la course à la Maison-Blanche, même si rien n'est encore joué aux États-Unis avant la convention démocrate de juillet prochain qui désignera qui sera face à Donald Trump en novembre. On en parlera avec notre invitée Célia Belin, docteure en sciences politiques, chercheuse au Brookings Institute. On va vous parler aussi du retour de l'opposant Juan Guaido au Venezuela, un retour chahuté hier par des militants chavistes à l'aéroport de Caracas. On ira au Pérou où un Français s'est lancé dans un projet un peu fou, faire réaliser des vêtements par les prisonniers de l'un des centres pénitentiaires les plus dangereux du pays. On entendra le reportage de notre correspondante sur place, Violaine Munoz-Boileau.
Laissez-moi vous dire une chose ce soir. Cette victoire, ici, c'est le début de la fin pour Donald Trump.
Voilà, Bernie Sanders consacré hier dans le New Hampshire la victoire qu'il espérait dans l'Iowa la semaine dernière où il a été distancé par son plus proche compétiteur, le jeune Pete Buttigieg. Et bien cette fois-ci, il l'a eu cette victoire qui reste, il faut le souligner tout de même, assez serrée. 26% des suffrages selon les premiers décomptes pour le sénateur du Vermont contre 24% pour l'ex-maire de l'Indiana, Bernie Sanders, qui a été donc accueilli hier soir, on l'entendait, par une foule en liesse et qui est... Bonjour Marie Normand.
Bonjour.
Qui est à la une de la presse ce matin, un peu partout.
Oui, partout. Alors, certains journaux insistent sur les scores serrés, vous le disiez, de Sanders et Buttigieg, comme le Chicago Tribune ou encore le Boston Globe. Mais le leader, désormais, c'est bien Bernie Sanders, comme l'écrit le Dallas Morning News. Il prend le contrôle de l'aile gauche du parti, souligne le Washington Post. En tout cas, pour le New York Times, celui qui a gagné dans le New Hampshire hier, ce n'est pas l'establishment. Quatrième position pour Elizabeth Warren, plongeon de Joe Biden. L'effondrement, c'est le mot utilisé par le New York Post aujourd'hui avec une difficile pour l'ex-vice-président qui apparaît les yeux fermés, la bouche ouverte avec ce titre « Say it and so, Joe, dis-moi que c'est pas vrai », Joe, célèbre titre de Murrayhead. Mother Jones prédit que la primaire va désormais s'emballer. Le New Hampshire n'a pas atténué le chaos de la course. Au contraire, ce vote a montré que le Parti démocrate, qui cherche toujours à trouver un champion capable de battre Trump, eh bien, reste intensément fracturé.
Merci Marie-Normand, on vous retrouve dans un instant. Et de cette primeur du New Hampshire, on en parle tout de suite avec notre invitée Célia Belin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct avec nous de Washington, ce qui explique ce petit décalage. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheuse au Brookings Institute et auteur du livre « Des démocrates en Amérique, l'heure des choix face à Trump » chez Fayard Édition. Célia Belin, les journaux, on vient de l'entendre, parlent après cette victoire de Bernie Sanders d'un parti démocrate fracturé. C'est aussi votre opinion ?
On a évidemment une situation de confusion du côté du Parti démocrate parce que l'enjeu est vraiment énorme. Il s'agit de trouver quelqu'un pour aller à l'assaut de Donald Trump et essayer d'éviter une réélection de président qui est considéré comme le pire président de l'histoire américaine et en tout cas qui a transformé profondément le paysage politique américain et bouleversé les équilibres établis. Et donc il n'est pas vraiment étonnant d'arriver après seulement la deuxième compétition de cette longue saison de primaire avec un résultat un peu confus. Et la seule chose que moi je retiens, c'est que les électeurs font leur choix dans la dernière minute et pour le moment décident de ne pas aller avec ce qui était considéré comme le choix sûr qui était celui de l'ancien vice-président Joe Biden.
Et que dire de cette deuxième position de Pete Buttigieg, de 40 ans, le cadet de Bernie Sanders? Est-ce qu'il a finalement toujours une chance dans cette course à la Maison-Blanche?
Alors évidemment, Pete Buttigieg va avoir des difficultés à partir de la prochaine primaire, qui est la primaire du Nevada, où domine le vote latino-américain, puis la suivante, celle de Caroline du Sud, où domine le vote noir américain, parce que on sait qu'il a pour le moment pas beaucoup de soutien dans ces deux communautés. Mais en fait, c'est que Pete Buttigieg propose à l'Amérique un message qui est substantiellement différent. On le dit souvent de centre-gauche, à l'inverse de Bernie Sanders, qui serait le vote progressiste de cette campagne. campagne, mais c'est surtout que le message de Pete Buttigieg, c'est un message de réconciliation, mais de réconciliation d'un nouveau genre qui cherche à moderniser en profondeur les institutions, la démocratie, la manière d'être démocrate. Donc c'est un message à la fois moderne et qui cherche à transcender un peu les clivages gauche-droite habituels. On dit de Buttigieg, par exemple, que c'est parfois le Macron américain. Donc c'est cette tendance-là qui a aussi une portée assez forte dans l'opinion publique et qui s'oppose au message très à gauche de Bernie Sanders, qui, on le voit, est populaire également.
Célia Belin, parlons à présent d'Amy Klobuchar, sénatrice du Minnesota, arrivée en troisième position avec 20% des suffrages. Est-ce que c'est une surprise ?
C'est la plus grande surprise de ces primaires, Amy Klobuchar, puisque elle était vraiment dans des pourcentages de soutien très très minimal, à 3-4% tout le long de l'année dernière, et elle n'a pas une organisation de campagne vraiment significative. Amy Klobuchar est un peu sur le même créneau que Pete Buttigieg, c'est le créneau de la réconciliation, de l'union. Simplement, elle apparaît comme plus expérimentée que Pete Buttigieg. Elle est elle-même au Sénat depuis longtemps et elle est été le responsable de plus d'une centaine de lois qu'elle a réussi à faire passer avec un soutien bipartisan. Et donc, elle se positionne un peu au centre de cette politique américaine avec la capacité de tendre la main de l'autre côté. Et puis, elle vient aussi du Minnesota, qui est un des États pivots qu'il faut absolument pouvoir conserver dans le camp démocrate et peut-être réussir à gagner les États d'à côté. Et puis, c'est une femme. Alors, pour les gens qui trouvaient un peu dommage que cette primaire manque de diversité, Amy Klobuchar a quand même un attrait particulier.
Une autre femme, la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, enregistre, elle, un score décevant, 9% des votes, dans un État pourtant proche du sien. Comment expliquer ce résultat ?
C'est la grande déception pour Elizabeth Warren, évidemment. Elle a une organisation de campagne très forte. Elle a été à un moment, c'est-à-dire vers le mois d'octobre, devant dans les sondages pour un court instant, juste devant Joe Biden. Et en tout cas, à partir de ce moment-là, elle était considérée comme une des favorites, même si elle avait vraiment chuté vers la fin de l'année parce que Pete Buttigieg d'un côté et Bernie Sanders de l'autre ont certainement grappillé son soutien. C'est difficile d'expliquer vraiment l'état de la course à ce stade, étant donné que c'est très mouvant. Les gens qui ont voté pour Pete Buttigieg et Amy Klobuchar, 53% d'entre eux disent s'être décidé au dernier moment. Donc peut-être que Elizabeth Warren a eu aussi une mauvaise semaine et pas forcément un reflet de l'ensemble de sa campagne, mais c'est pas très bon pour elle à ce stade. Et il va falloir qu'elle prouve qu'à la différence de Amy Klobuchar et Pete Buttigieg, elle a davantage de soutien auprès des minorités. Ça, c'est possible. Ce sera testé directement dans les deux prochains États, auquel cas elle redeviendra compétitive. C'est un peu la même chose pour Joe Biden. Mais pour l'un comme pour l'autre, ils sont dans une position difficile.
Célia Belin, vous avez passé du temps avec les démocrates lors des meetings en amont de ces primaires. Quelle conclusion tirez-vous finalement de ce qui anime aujourd'hui les électeurs démocrates ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit lors de vos entretiens ?
Alors j'étais à la fois dans le New Hampshire et puis dans l'Iowa en amont de ces premiers choix. Ce qu'on remarque vraiment, ce sont deux choses. C'est d'abord une très grande peur, la peur de la réélection de Donald Trump. Et donc du coup, évidemment, le mot d'ordre, c'est on se restera unis et on prendra qui que ce soit pour battre Donald Trump. Mais du coup, la question qui se pose, c'est toujours qui est capable de battre Donald Trump. Et donc, les gens ne votent pas en fonction nécessairement de leurs préférences personnelles, mais en fonction de ce qu'ils anticipent être les préférences de leurs voisins ou du reste de l'Amérique. Ça joue plutôt au détriment des deux femmes qui sont dans cette course, encore que Amy Klobuchar a vraiment réussi à montrer, là, dans les derniers débats, qu'elle arrivait à être très forte, et puis elle a répété le point qui est qu'elle n'a jamais perdu une élection et qu'elle arrive très bien à battre les républicains quand elle joue dans sa réélection. Mais l'autre message qui est vraiment important, à mon avis, c'est celui de cet engouement pour le progressisme, c'est-à-dire une ligne très à gauche, parce que les Américains, depuis que Donald Trump a été élu, considère que tout est possible dorénavant, qu'on peut transformer l'Amérique comme lui l'a fait, mais peut-être comme Bernie Sanders le propose, c'est-à-dire dans une direction de plus de justice sociale, où on transforme le système économique lui-même. Et il y a un peu cette rage là derrière qui, pour le moment, se rallie derrière Bernie Sanders, mais qui existe dans tout un tas de directions, y compris chez les minorités qui veulent davantage de justice raciale et qui vont continuer à chercher leur champion.
Merci beaucoup Célia Belin, en direct de Washington. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques, chercheuse au Brookings Institute. Marie Normand, je me retourne vers vous pour la suite de votre revue de presse. L'autre titre ce matin aux États-Unis, le retrait avec fracas de 4 procureurs qui travaillaient sur le dossier Roger Stone, reconnu coupable en novembre de mensonge devant le Congrès. Retrait qui fait suite à une intervention exceptionnelle du ministère de la Justice pour adoucir la peine de ce dernier, un ami de longue date de Donald Trump.
Oui, et le président est donc accusé de bafouer le principe de la séparation des pouvoirs. Notez d'ailleurs qu'il a félicité il y a quelques minutes son ministre sur Twitter d'avoir pris en charge cette affaire qui était selon lui totalement hors de contrôle. Il se demande même si les procureurs n'étaient pas, je cite, des procureurs voyous. Pour le New York Times, cet événement a en tout cas mis en évidence les questions relatives à la volonté du procureur William Barr de protéger l'indépendance du ministère de toute influence politique. Les critiques l'ont déjà accusé de se ranger du côté du président en ce qui concerne l'application de la loi, mais là on parle d'une enquête criminelle qu'il supervise. La réputation du ministère de la Justice est en ce moment sous assistance respiratoire, estime le Washington Post. La peine de 7 à 9 ans de prison que les procureurs avaient demandé était précisément ce qu'une justice équilibrée exigeait, loin de l'erreur judiciaire évoquée par Donald Trump dans un tweet. Pour le Washington Examiner, en revanche, Roger Stone n'est qu'un menteur et ne valait pas le mélodrame joué par les procureurs hier, qui ne fait que rajouter à l'absurdité de l'affaire.
Marie, Juan Guaido, de retour au Venezuela hier, mais pas sans peine.
Oui, le chef de file de l'opposition est rentré à Caracas après une tournée en Europe et aux États-Unis. Une arrivée à l'aéroport de Maiquetía, chahutée sous les applaudissements d'une part et les huées. On entend à l'instant là la bousculade. Un groupe de personnes identifiées comme étant des employés de la compagnie aérienne Conviasa, visée depuis peu par des sanctions américaines, ont agressé, insulté, jeté du liquide et des objets sur Juan Guaido, raconte El Carabobeño. Ils s'en sont ensuite pris aux journalistes et en parallèle, soutient le journal, des agents de sécurité proches de Nicolas Maduro avaient bloqué les autoroutes et l'accès à l'aéroport pour empêcher les partisans de Guaido, cette fois, et les députés de l'Assemblée d'aller accueillir celui qui se présente comme le président du Venezuela. Tal quoi, elle précise que depuis cet épisode, l'oncle de Juan Guaido, il s'appelle Juan José Márquez, qui voyageait avec lui, est porté disparu. Il avait expliqué à ses proches par SMS être retenu à la douane pour remplir des déclarations supplémentaires avant de couper tout contact. L'équipe de Juan Guaido exige sa libération, comme le rapporte Efecto Cucuyo.
Merci beaucoup Marie Normand pour cette revue de presse des Amériques. Direction le Pérou à présent, avec ses 10 000 détenus. La prison de Lurigancho à Lima est la plus grande du pays. Elle est aussi souvent citée parmi les plus violentes et les plus dangereuses au monde. Pourtant, c'est bien là que le Français Thomas Jacob a décidé de se lancer dans un projet un peu fou, créer une marque de vêtements entièrement fabriquée par des prisonniers. Le reportage de notre correspondante à Lima, Violaine Munoz-Boileau.
Nous pénétrons dans un hangar de la prison de Lurigancho. Surnommée la zone industrielle, ce bâtiment abrite une dizaine d'ateliers, de la confection à la mécanique en passant par la pâtisserie. Thomas Jacob nous accueille au milieu des machines à coudre, des rouleaux de tissu et des plans de travail.
Je m'appelle Thomas, j'ai 32 ans et j'ai fait mon entreprise ici.
Ce jeune Français est un pionnier, il est le premier entrepreneur à avoir monté son entreprise dans une prison péruvienne. Une idée qui remonte à 2013 alors qu'il effectuait un stage en marketing à Lima.
J'avais une amie française qui faisait un volontariat dans les prisons. Et un jour, elle m'a invité à voir une pièce de théâtre avec les détenus d'ici. Et je suis venu ici, j'ai connu plein de détenus. Je sentais que les mecs étaient assez sincères et honnêtes et ils avaient vraiment envie de travailler, ils avaient vraiment envie de s'en sortir.
Fort d'une petite expérience dans le textile, Thomas décide alors de franchir le pas en créant Pieta, une marque de vêtements entièrement fabriquée par des détenus. 7 ans plus tard, c'est un succès. La marque possède plusieurs boutiques dans les quartiers branchés de Lima et se vend aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, son atelier de la prison de Luligancho tourne à plein régime et emploie une cinquantaine de prisonniers, tout profil confondu.
L'atelier ouvert à tous, il n'y a pas de segmentation suivant leur peine, qu'ils soient délinquants sexuels ou narcotrafiquants ou assassins, en fait, ils sont tous mélangés.
Thomas est ravi de ses employés qu'il dit tous très motivés. Les yeux rivés sur sa machine à coudre, Joël, 39 ans et incarcéré depuis 5 ans, s'interrompt quelques instants.
Je travaille ici depuis un an, j'ai appris à coudre. J'aime bien, ça m'occupe, ça me distrait toute la journée et ça m'empêche d'avoir les idées noires.
Affairé à la machine d'à côté, Juan, un autre détenu, complète entre deux coups d'aiguille.
Ça nous aide financièrement aussi parce que dans les cellules, on a besoin d'argent et puis ça nous permet d'envoyer un peu d'argent à la famille dehors.
Dans cette prison où règne la corruption, l'argent est indispensable pour survivre. Lit, repas, douche, ici tout se paye. Grâce à leur travail, les détenus peuvent subvenir à leurs besoins. Ils sont rémunérés chaque semaine en fonction de leur production. Mais l'argent n'est pas la seule motivation, comme l'explique Edwin Velasquez, responsable de l'Institut pénitentiaire.
Les détenus travaillent pour des raisons économiques, mais aussi pour sortir plus vite, car au Pérou, le détenu qui travaille obtient une réduction de peine et ça leur permet aussi de se réinsérer plus facilement à la sortie. Il est rare qu'en sortant, ils récidivent.
Le succès de Pieta a été tel qu'il a inspiré d'autres initiatives similaires. Aujourd'hui, la prison de Luligancho compte 12 entreprises qui emploient 600 détenus. Quant à Thomas Jacob, il envisage de développer son projet dans d'autres prisons péruviennes. Vilouen Munoz-Boileau, Lima, RFI.
RFI, 14h26 à Paris. Actualité des Outre-mer avec le journal La Première Caraïbe, présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une, deux rencontres, l'une sur place, l'autre à Paris, vont tenter ce mercredi de dénouer la crise scolaire en Martinique.
Oui, d'abord le début des entretiens entre les enseignants en colère et des inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Ça se passe en Martinique. Ensuite, une rencontre à Paris entre les parlementaires de l'île des Antilles et le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Le tout pour tenter de mettre un terme à la contestation contre deux réformes, les réformes du baccalauréat et aussi des retraites. Claude Gracien.
C'est vrai que le dossier de la réforme des retraites sera là, en toile de fond des entretiens prévus aujourd'hui, car depuis deux mois, des établissements sont bloqués et des parents sont parfois à bout, mais c'est d'abord le fonctionnement de l'éducation en Martinique qui sera abordé. Quelle est la position des uns et des autres pour favoriser une réussite plus importante de nos jeunes, éviter les décrochages et offrir à chacun des perspectives? En début de semaine, les associations de parents d'élèves, que sont l'UPEM et la FCPE, ont livré leur vision de ce qu'il y avait à faire rapidement. L'idée d'une tenue des assises de l'éducation portée par la FCPE a émergé une table ronde destinée à pointer les dysfonctionnements dans l'académie. Une vision partagée par l'UPEM dont l'un des représentants a expliqué qu'il fallait favoriser le dialogue pour faire émerger des solutions. Un dossier éducation qui sera au menu d'une réunion des parlementaires de notre île aujourd'hui à Paris avec le ministre Jean-Michel Blanquer. Ce sera à midi heure de chez nous. Il s'agit de faire un point notamment sur les suppressions de postes envisagées ici, à peu près 70, alors que la Guadeloupe a obtenu un moratoire sur cette question. Autre dossier qui doivent être abordés, les épreuves communes du bac, dont l'organisation est vertement critiquée par les syndicats, mais également la réforme des retraites à laquelle les organisations syndicales de l'éducation sont farouchement opposées.
On reste en Martinique avec un tout autre sujet. On va parler du Toumelin. Le Toumelin, c'est le premier navire à voile qui a été classé monument historique aux Antilles. Il va retrouver une nouvelle jeunesse grâce à un chantier d'insertion. La vénérable goélette, qui a subi les outrages du temps, va être confiée pendant un peu plus d'un an aux bons soins d'une quinzaine de stagiaires, des stagiaires en formation ou en reconversion. Un chantier qui sera financé conjointement par la collectivité territoriale et par l'État, comme l'explique la sous-préfète du Marin Corinne Blanchot-Prosper au micro de Fabrice de Frémont.
L'État et la CTM s'engagent à soutenir financièrement le projet et à les accompagner. Et puis ensuite, les personnes, pour être présélectionnées, elles le sont dans le cadre d'un suivi avec Pôle emploi. Donc c'est vrai que la machine institutionnelle, qu'elle soit étatique ou les collectivités, est assez, j'allais dire, formalisée, mais vérifie L'intérêt et la solidité du projet.
Il peut se monter à combien ?
Pour celui-ci, un peu plus de 300 000 euros. On finance essentiellement tous les postes des personnes qui sont en insertion. Donc on a validé la possibilité pour les porteurs de projet de recruter 15 personnes. Donc tous les salaires sont pris en charge par l'État. Puis il y a un accompagnement aussi de la CTM, notamment pour l'encadrement technique.
Bon après-midi Anne, à demain.
À demain, merci, bon après-midi à vous Benoît Ferrand. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain 14h10, heure de Paris. Restez avec nous sur la Radio du Monde.